la brève intervention que j'ai faite il y a une heure a voulu situer la logique synodale dans la vie et pour l'action de la communauté chrétienne. Et je disais que cette logique est à la fois extrêmement classique, traditionnelle, elle appartient au patrimoine millénaire de la communauté chrétienne. Elle est moderne aussi parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'Église que, grâce aux moyens de communication modernes, on peut, comment dirais-je, interroger l'ensemble du peuple de Dieu dans son entier sur 5 continents, ça fait à peu près 1,4 milliard de personnes, dans un temps relativement bref. Ce processus, initié donc par le pape François, peut cependant nous prendre au dépourvu, parce que cet aspect si important de la vie chrétienne a été comme mis en veilleuse depuis plusieurs siècles, grosso modo depuis le XVIe siècle, surtout dans la partie latine de l'Église, c'est-à-dire la nôtre, par distinction avec la partie orientale de la même Église. Et cette mise en veilleuse peut s'accompagner donc d'une perte de notre part de l'habitude, par conséquent, de cette pratique-là, et fait courir aussi le danger de séculariser cette pratique en processus démocratique comme on le connaît dans nos sociétés civiles, ce qui serait dénaturer ce processus. Alors on pourrait bien sûr s'interroger longuement sur les raisons de cette mise en veilleuse pendant plus ou moins 3 ou 4 siècles. Ce n'est pas mon sujet, je ne suis pas d'ailleurs un historien, et je crois qu'il faut plutôt réfléchir, en tout cas c'est notre raison d'être ici, sur ce que l'on attend aujourd'hui pour la vie pastorale et missionnaire de l'Église de ce parcours synodal actuel. Et il y a à ce sujet une demande assez claire du pape François qui revient assez souvent sous sa plume, c'est d'en finir avec le cléricalisme qui est réducteur de la vie de la communauté chrétienne parce que il est une relation unilatérale, ministre fidèle, et n'honore pas la réciprocité, comme on l'a dit tout à l'heure, et donc n'honore pas la complémentarité, et donc appauvrit la diversité en donnant une réalisation de l'unité trop réductrice par rapport à la symphonie dont le chef d'orchestre est l'Esprit Saint. Alors pour dépasser cette situation, on peut être tenté de rééquilibrer la relation clerc-laïque. Je l'entends pratiquement tout le temps. Il faut rééquilibrer la relation clerc-laïque, c'est-à-dire, si l'on suit ce vocabulaire et ce qu'il signifie, il faudrait enlever des compétences aux ministres pour les donner aux laïcs, avec le risque d'ailleurs d'obtenir un déséquilibre inverse, ce qui ne serait pas mieux, avec le risque de cléricaliser les laïcs, ce qui n'est pas le but. D'autre part, si le mot équilibre a un sens, c'est celui que lui donne la physique, c'est-à-dire il y a équilibre quand il y a jeu égal de deux forces opposées. C'est dans les deux plateaux de la balance. Je mets 500 grammes de poireau dans l'un, je mets un poids de 500 grammes dans l'autre plateau et c'est équilibré. Bon. Et les physiciens ajoutent les équilibres sont toujours instables, dans ce sens il y a toujours une force qui l'emporte sur une autre. Eh bien, ce n'est pas mieux, d'autant plus qu'il y a équilibre quand il y a opposition, deux forces opposées. Est-ce qu'il y a opposition entre clercs et fidèles? Je ne pense pas que ça soit le bon schéma. En tout cas, il n'y a pas d'opposition entre le cœur et les poumons, que je sache, dans l'exemple biologique. Et pourquoi ça se retrouverait dans le corps ecclésial? Alors je ne vais pas m'étendre bien sûr sur le pouvoir comme service, c'est bien sûr tout à fait exact, mais ce n'est pas la façon que je vous propose de voir les choses maintenant. Mon propos sera le suivant. plutôt que de choisir un modèle d'équilibrer plus ou moins stablement les choses, je crois qu'il faut faire un effort pour honorer plus pleinement, plus précisément, plus concrètement, la vérité fondamentale de la relation des deux sacerdoces, baptismal et ministériel. Il y a en effet dans la structure, peut-on dire, du peuple de Dieu, une distinction de fond qui a été voulue par le Christ lui-même. Les fidèles laïcs sur le fondement du baptême et les ministres au sens strict du mot ministre sur le fondement du sacrement de l'ordre. Et ce n'est pas le modèle de l'équilibre, il faut donner à chacun sa place, toute sa place et rien que sa place. Et à ce moment-là, on voit que l'un appelle nécessairement l'autre pour que les choses soient complètes. Il faut que la jambe gauche soit vraiment la jambe gauche. À ce moment-là, on verra qu'on a besoin de la droite pour marcher et réciproquement. Il ne s'agit pas d'équilibrer la gauche par la droite. Il faut que chacune soit exactement dans sa position. Vous voyez la différence ? Hein ? Alors, j'attire votre attention là-dessus parce que le mode de penser par l'équilibre est un mode total, général, qui s'applique à tout. On parle d'un repas équilibré, on parle d'une personnalité équilibrée, on parle de l'équilibre des pouvoirs entre le Parlement et le Conseil fédéral. C'est un schéma, si vous voulez, qui est absolument général. Je ne pense pas que ce soit ce schéma-là qu'il faille adopter ici, comme ce n'est pas le schéma que les médecins adoptent pour dire comment est fait un corps biologique. C'est plutôt le schéma qu'il faut, il faut harmoniser, diversité, complémentarité, réciprocité. C'est ça le schéma, voyez-vous ? Et non pas l'équilibre plus ou moins stable de deux choses opposées qui s'équilibrent, si je puis dire, mutuellement. Alors, dans cette perspective-là, il faut rechercher d'être plus et mieux dans la vérité et donc dans la bonté de qui on est, et cela ouvre sur une relation par conséquent, et cette relation claire laïque a été instituée, voulue par le Christ. Ce n'est pas une chose qui est née du tempérament latin ou grec dans l'histoire, etc. Reprenons, si vous voulez, à partir de ce qui a été dit tout à l'heure. La diversité, commençons par la diversité, puisqu'il y a deux sacerdoces réellement différents. À vrai dire, pour prendre les choses vraiment au début, il n'y a qu'un seul sacerdoce, total et parfait, qui est celui du Christ. Les deux sacerdoces, le baptismal et le ministériel, sont des participations au sacerdoce du Christ. Et qui dit participation, dit prendre part, prendre une part, et non pas le tout. Et justement, ce n'est pas la même part du sacerdoce du Christ que prend le baptisé, ou que prend le ministre, si je puis dire. Et c'est donc parce que c'est pas la même part que la différence est réelle. Ce qui veut dire aussi qu'il n'y a pas plus dans l'un que dans l'autre. Ils sont différents. Vous ne diriez pas qu'il y a plus dans le pied par rapport à la main. Vous direz non, c'est différent. Le pied c'est fait pour marcher, la main c'est fait pour écrire, par exemple. Il n'y a pas du plus ou de moins, il y a de la différence. Et tout le monde comprendra que si on met cette différence ensemble, ben c'est mieux ensemble que séparé. C'est tout ça qu'il y a derrière. Voyez le schéma mental nécessaire pour appréhender ces questions. Je vous cite Vatican II, qui n'est pas si dépassé que ça, à condition qu'on le mette en œuvre. C'est dans Lumen Gentium au numéro 10. L'un et l'autre sacerdoce, baptismal et ministériel, participent, c'est le verbe, chacun selon son mode propre, dit le Concile, de l'unique sacerdoce du Christ. C'est Vatican II, mais ça court jusqu'à nos jours, en passant par le catéchisme de l'Église catholique, etc. Donc théoriquement, si vous voulez, il ne devrait pas y avoir beaucoup de problèmes. Chaque sacerdoce ayant sa propre nature, un peu comme il n'y a pas de problème pour voir la différence entre le cœur et les poumons. Au plan de l'identité propre de chaque sacerdoce, c'est bien clair. Cette distinction réelle des deux sacerdoces est bien perceptible à travers ce qu'on appelle les trois offices ou qualités du Christ, puisque ce sont des participations à cela. Par exemple, lors de la célébration eucharistique, qui est un acte central de la fonction de sanctification du Christ, eh bien, le sacerdoce baptismal célèbre le don de lui-même à Dieu. Un prêtre sacerdotal, le prêtre, qu'est-ce qu'un prêtre? Ben, c'est celui qui offre le sacrifice. C'est ça, un prêtre. Bon. Alors, il y a le sacerdoce baptismal et le sacerdoce ministériel. Eh bien, la différence est réelle. Pourquoi? Parce que c'est pas le même sacrifice qui est offert par les deux sacerdoces. Le sacerdoce baptismal, alors je prends le mot sacrifice, ça peut faire dresser les cheveux parce que c'est souvent lié à des choses très doloristes, etc. Non, revenons vraiment à la source des choses hein, pour éviter les versions un peu diluées. Sacrum facere, rendre sacré. Voilà. Et la vie chrétienne est présentée par saint Paul, Romains 12, comme la célébration d'un sacrifice spirituel du chrétien. Il rend sacré sa vie hein, et l'offre ainsi à Dieu. Voilà. Eh bien, ça, c'est l'acte propre du sacerdoce baptismal, et personne ne le fera à la place du baptisé. Et la perfection de cet acte sacerdotal baptismal est accomplie, cette perfection, quand, évidemment, le sacrifice de moi-même est, comment dirais-je, uni, lié au sacrifice du Christ pour former le sacrifice, comme dirait saint Augustin, du Christ total. C'est la raison d'être de la messe. Unir le sacrifice de soi, de chaque baptisé, qu'il le célèbre lui-même au sacrifice du Christ, sacrifice total du Christ total. La messe est faite pour ça. Bien. Alors l'acte du sacerdoce ministériel, c'est de rendre présent le sacrifice du Christ, la consécration, pour que les fidèles unissent le sacrifice d'eux-mêmes à celui du Christ, et qu'on atteigne ainsi la perfection de la tête et du corps, la tête qui est le Christ, le corps que nous sommes. Vous voyez ? Alors, ce n'est pas le même sacrifice qui est accompli par chaque sacerdoce, mais ils s'appellent mutuellement. Puisque la finalité du sacerdoce ministériel, c'est de présenter aux fidèles le sacrifice du Christ, la finalité du sacerdoce baptismal, c'est de s'unir au sacrifice du Christ. Et c'est l'union des deux qui réalise le sacrifice total du Christ total. Si on prend la fonction de prêcher, le prophétisme chrétien, hein, participation au Christ prophète, eh bien, les fidèles, bien sûr, sur le fondement de leur baptême, hein, baptême confirmation, prêchent l'évangile, verbo et exemplo, hein, par la parole et par la valeur de leur vie, et le ministre prêche, lui, la foi de l'Église, c'est-à-dire la foi apostolique, participant de la fonction apostolique confiée aux apôtres et à leurs successeurs. Et le ministre a valeur ici d'un témoin officiel, si je puis dire. Au plan de la qualité royale, qui est la troisième qualité du Christ à laquelle nous participons, si les mots ont un sens, gouverner, royal, ça veut dire gouverner, n'est-ce pas? Le fidèle se voit confier la régence de la cité, et le clerc a la régence de la cité ecclésiale, et ne doit surtout pas se mêler de la cité temporelle, la cité politique. Il y a eu, de ce point de vue-là, à Vatican II, une clarification extrêmement nette. Les clercs ne doivent avoir aucune responsabilité politique dans la cité des hommes. Ce n'est pas leur domaine, c'est celui par excellence du baptême, des baptisés, qui doivent orienter la cité des hommes vers l'Évangile, bien sûr, pour que ces lois ne soient pas contraires à l'Évangile, par exemple, mais ce n'est pas le lieu des clercs. Or, vous savez qu'avant le Concile Vatican II, il n'était pas rare d'avoir des prêtres qui assuraient des fonctions politiques. Nous sommes ici en France, bon, l'abbé Pierre a été député au Parlement, au début des années 50. À Dijon, il y avait le fameux chanoine Kir, qui lui a fait une longue... il est connu par le cocktail, hein, mais il a fait une longue carrière également de député. Depuis Vatican II, c'est rigoureusement interdit. Bon. Et on a posé la question à Rome, est-ce que l'évêque peut donner une dispense pour un prêtre qui pourrait être, par exemple, le syndic d'une commune, si on ne trouve personne? Réponse de Rome, non. Il faut le demander à Rome. Et Rome l'a parfois accepté, en particulier en Afrique, quand vous avez des régimes politiques qui sont gravement défaillants, et il est arrivé que, en République centrafricaine ou au Congo Kinshasa, par exemple, devant la vacance du pouvoir politique, elle a été confiée temporairement à l'archevêque du coin, avec permission de Rome, et toujours pour un temps limité, le temps de revenir à la normale, voyez-vous. Mais la règle veut que la qualité royale baptismale s'exerce à plein dans les affaires de la cité, bien sûr, pour l'ordonner, pour la christianiser, bien sûr, dans son fonctionnement, et absolument pas pour les ministres. Et la défense actuellement pour les ministres est beaucoup plus stricte encore qu'elle l'était avant. Alors, voyez, distinction tant du prêtre, du prophète et du roi, une distinction bien réelle et assez claire, et on voit bien aussi que les deux sacerdoces expriment de manière diverses et complémentaires leur participation au seul sacerdoce plein et total du terme qui est celui du Christ. Mais attention, si on en reste à la distinction vraiment réelle des deux sacerdoces, on risque de les faire fonctionner en autonomie, chacun ayant son précaré, si vous voulez. Hein. D'où le complément suivant, si vous voulez, qu'il faut donner, hein, et que Vatican II exprime ainsi, les deux sacerdoces, toujours en Lumen Gentium 10, les deux sacerdoces sont ordonnés réciproquement l'un à l'autre. Chacun a son principe de compétence, si je puis dire, mais qui appelle nécessairement l'autre, comme les deux jambes pour marcher, si vous voulez. D'où mon deuxième point, après la diversité réelle, il y a la relation, ou les relations nécessaires entre les deux sacerdoces, puisque sur le fondement de leur spécificité, cette spécificité fonde leur relation. Et ces relations des deux sacerdoces sont extrêmement importantes, parce que, je le rappelle, ce n'est que par ces relations que le sacerdoce du Christ s'accomplit parfaitement dans son Église. Reprenons la première relation dans la prédication de l'Évangile, la qualité prophétique reçue du Christ. Il s'agit tant de pastoral, c'est-à-dire de nourrir la foi du peuple de Dieu par la parole de Dieu, la catéchèse à tous les niveaux, par exemple, de la catéchèse, que de mission, c'est-à-dire de faire naître la foi là où elle n'y est pas encore. Et nous sommes envoyés non seulement aux non-chrétiens, mais beaucoup plus difficile. Et vous le savez mieux que moi, parce que vous êtes au concret tous les jours sur le terrain, il y a beaucoup plus difficile que les non-chrétiens, il y a les post-chrétiens. Hein? Ça, c'est beaucoup plus difficile, et c'est tout à fait nouveau dans l'expérience de l'Église. On n'a jamais rencontré de post-chrétiens encore, il faut venir maintenant et ici pour en trouver. Hein? Avant, on avait des païens, c'était clair. Bon. Maintenant, on a des post-chrétiens, c'est beaucoup plus subtil. Oh oui, la bonne nouvelle, ça fait 15 siècles qu'on l'entend ici. Il y a mieux comme nouveauté. Et puis bonne, on s'en passe tellement bien, vous comprenez que... Bon, passons. Ça, c'est le post-chrétien. C'est plus difficile. Bien. Alors, dans la prédication de l'Évangile, dans tous ces cas, hein, que ce soit à l'intérieur de l'Église ou à ses périphéries, comme on dit maintenant, eh bien, la relation part, nous l'avons vu rapidement dans ma première intervention, de la prédication apostolique et donc des ministres. Hein, c'est le schéma, la relation une qui est fondatrice. La foi naît de la prédication, elle est nourrie par la prédication aux Romains 10. Hein. Et à partir de cette prédication apostolique, donc des ministres, les fidèles reçoivent et vivent de la foi. Et ils vivent, bien sûr, et témoignent de la foi de l'Église. C'est pas le moi personnellement, je, comme je me sens les choses. Je témoigne de la foi de la communauté, bien sûr. Alors pour moi, si vous voulez, petite expérience personnelle qui probablement rejoindra la vôtre, pour moi, le prédicateur décisif dans ma vie, ça a été ma mère. Ça n'a pas été le pape. Mais d'où ma mère tirait ce qu'elle me disait ? Ben, du pape. Voilà. Ouais. C'est un peu rapidement dit, mais ça au moins, mon expérience avec les étudiants, c'est que ça se retient au moins. Bon. Alors, première précision, ce n'est donc pas par délégation des ministres que les fidèles prêchent. C'est sur le fondement du baptême et de la confirmation. Et ce faisant, comme on l'a vu à propos de l'Immaculée Conception, mais ça se verrait pour beaucoup d'autres choses, j'ai pris un cas extrême, bien sûr, les fidèles augmentent l'intelligence de la révélation en la vivant et en témoignant. Les fidèles ont des initiatives pratiques, pastorales et missionnaires. Et c'est pourquoi les ministres doivent recevoir leur témoignage. C'est nécessaire. Voyez à ce sujet, dans le catéchisme de l'Église catholique, le numéro 900, que je résume, si vous voulez. Alors, cette relation est vraiment réciproque. Et dans une relation réciproque, il y a un certain ordre. Elle s'engendre comment, cette relation réciproque ? Il y a une logique à l'œuvre, elle est ordonnée, elle a une cohérence, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est, je le répète, à partir de la prédication apostolique, et moi qui suis prêtre, je suis tout aussi sous la source apostolique de la prédication que vous tous, n'est-ce pas ? Bien sûr. À partir de la prédication apostolique, c'est les 12 et leurs successeurs, naît et se développe la prédication des fidèles qui vient enrichir la prédication apostolique. Là, c'est le pape Pie IX interrogeant les fidèles pour savoir si Immaculée Conception, oui ou non. Et ça faisait quand même 700 ans qu'on cherchait, hein, et que les dominicains et les franciscains se battaient. Là, c'est les franciscains qui ont gagné. C'est très rare. Mais ça peut arriver. Par accident, peut-être. Voilà. Oui, moi, c'est l'équilibre, c'est ça. Ouais. Bien joué. Bon. Vous voyez, cette logique que j'ai présentée dans la conférence précédente à propos d'un cas maximal, qui est le dogme, mais c'est la même logique qui est quotidienne dans la vie de l'Église. Et c'est cette logique-là qui est au principe même de la démarche synodale. Non pas pour promulguer un dogme en 2024, mais c'est pas ça que le pape cherche. Il cherche à comment annoncer l'Évangile dans le contexte du 21e siècle qui a des caractéristiques tout à fait singulières par rapport au siècle précédent. Je disais les post-chrétiens, ça n'a jamais existé avant. Mais maintenant, ça existe. Bon. La mondialisation et tout. Enfin, comment annoncer l'Évangile dans ce nouveau contexte, hein ? Deuxième relation, dans la célébration des sacrements, la qualité sacerdotale, stricto sensu, La qualité sacerdotale stricto sensu, hein, offrir le sacrifice, si vous voulez. Ça vient logiquement après la prédication. Pourquoi ? Parce que une fois que j'ai annoncé par la prédication le salut, le sauveur, etc., je dois être capable de le donner, ce salut. C'est pas simplement de l'annoncer, il faut le donner. Par exemple, le Christ nous dit qu'il y a une nécessité de renaître de l'eau et de l'esprit. Ça, je le prêche. Jean 3, 5. Nul à moins de renaître de l'eau et de l'esprit. Ah bon, d'accord. Ben, je dois être capable de donner, de réaliser cette renaissance ou cette naissance qui est le baptême. Voyez, par exemple, dans le discours de Saint-Pierre, le matin de la Pentecôte. Saint-Pierre a prêché le salut dans le Christ, etc. À la fin, les auditeurs lui demandent « Mes frères, que devons-nous faire ?» Répond Saint-Pierre « Faites-vous baptiser. » Et on y passe. Vous voyez, il a prêché toute la matinée et ça se termine par la célébration d'un sacrement. Pourquoi ? Parce que la célébration sacramentelle donne réellement ce qui a été annoncé par la prédication. Donc elle suit, si vous voulez, elle accomplit la prédication en donnant réellement ce qui a été annoncé. Alors, comme je l'ai dit, si vous voulez, ce matin, dans la célébration sacramentelle par excellence, qui contient tout le trésor de l'Église et qui est la célébration eucharistique, on a le schéma parfait de la chose, où nous avons la qualité sacerdotale des ministres et la qualité sacerdotale des fidèles, qui sont conjointes et non pas mélangées, pour arriver à une fonction sacerdotale totale, qui est celle du Christ total, tête et corps, hein, l'offrande que le Christ fait de lui-même à son Père, et nous qui faisons l'offrande de nous-mêmes dans le Christ au Père. C'est ça, l'accomplissement de l'Eucharistie. Et chaque sacerdoce, je répète, est la finalité de l'autre. Si je réalise en vertu de mon sacerdoce ministériel propre la consécration du pain et du vin, donc je rends présent le Christ en son offrande au Père, c'est pour que les fidèles unissent le sacrifice d'eux-mêmes et que personne ne fera à leur place à celui du Christ et que ce soit le tout qui monte au ciel. C'est ça le salut, évidemment. Et dans la régence, je l'ai, dans la fonction royale, si vous voulez, la dernière qualité, je l'ai d'abord présenté dans la distinction réelle des deux royautés, en disant aux fidèles baptisés, la cité des hommes a ordonné selon l'Évangile, et aux clercs, la cité de Dieu a gouverné, entre guillemets. Bon, c'est clair, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce que c'est que gouverner l'Église ? C'est, il y a une partie, si vous voulez, qui est un peu semblable aux cités séculières. Hein, il faut entretenir un patrimoine immobilier, il faut faire rentrer l'argent de la quête, etc. Bon, ben ça c'est pas spécifiquement chrétien. C'est, disons, sociologique. Et d'ailleurs, c'est pas nécessaire d'être chrétien pour le faire. Pour dire que si une paroisse a besoin d'un comptable et que le comptable compétent et honnête n'est pas baptisé, ben il peut parfaitement le faire. Hein. Ça vaut mieux qu'un baptisé incompétent. Hein. Bon, je crois que c'est assez clair. Bon. C'est pas là qu'est engagé, si vous voulez, nécessairement le mystère de l'Église dans ce qu'il a de spécifique. Non, quand on parle de gouverner dans l'Église, donc la fonction royale, c'est gouverner, c'est mener une communauté à sa fin, à sa finalité, à son accomplissement, c'est ça le gouvernement, qui s'appelle le bien commun, tout simplement. Bon, ça c'est valable pour la Suisse, pour la France et autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour la communauté ecclésiale ? Sa finalité, c'est la sainteté de tous ses membres. Bon, alors gouverner, c'est ça. Alors ça veut dire concrètement faire produire, si j'ose dire, hein, c'est un vocabulaire un peu trop physique, mais enfin vous me comprenez. Faire produire à la grâce qui a été reçue par la prédication et la célébration sacramentelle, la grâce elle est, lui faire produire ses fruits, qui s'appellent la sainteté, ou si vous préférez, la charité. C'est ça. Il ne s'agit pas tant de enfin, il s'agit pas d'abord ou seulement de recevoir la grâce. Il faut la recevoir, vous voyez la parabole du semeur, hein, vous la recevez semée en vous, ça, c'est la prédication de l'Évangile, ça c'est la célébration des sacrements, mais enfin il faut qu'elle fructifie. Les uns 40, les autres 60, les autres 100, peut-être, mais il faut qu'elle fructifie. C'est ça gouverner. Le gouvernement ecclésial, si vous voulez, c'est faire produire à la communauté qui a reçu la grâce les fruits de la grâce, qui se résument dans les œuvres de charité. Accomplir les œuvres qui expriment une charité vivante et féconde. Et c'est tout le domaine de la pastorale et de la mission, dont la vérité et la bonté essentielles sont d'être des manifestations de la charité du Christ et des chrétiens qui se communiquent. Et là aussi, nous avons besoin d'un authentique concours. C'est le verbe technique, hein, concours. On évite co-responsabilité parce que le suffixe co en français indique une idée d'égalité. Non, au contraire, il y a une différenciation, il n'y a pas de plus ou de moins, et donc il n'y a pas d'égalité. Il y a distinction, différence, complémentarité. Et le verbe, c'est concourir, le verbe technique que nous avons. Et le concours ici, baptisé ministre, font que les œuvres de la grâce opérante, agissante, fructifiante, résulte du concours. Et quel est ce concours, baptisé ministre? L'essentiel ici, si vous voulez, repose sur les baptisés. C'est leur fonction royale, et nul ne le fera à leur place. Et ils n'ont pas besoin de délégation pour ça. Exemple, vous avez à l'heure actuelle ce qu'on appelle des nouvelles pauvretés, qui sont liées à, pas seulement à l'État, à l'état économique de nos sociétés, mais à l'état culturel et moral de nos sociétés. Par exemple, les femmes en danger d'avortement. C'est une réelle pauvreté, pour ne pas dire une misère. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Et là, dans toute l'histoire de l'Église, on voit que le moteur de cela, c'est le sacerdoce baptismal, c'est la royauté baptismale, si vous voulez. C'est de là que dans l'histoire ont toujours jailli les initiatives. Quand il a fallu reconstruire tout le christianisme en France au XIXe siècle, il ne restait rien, comme sur la table. C'est parti d'où? C'est pas de Rome, C'est parti de la base, c'est parti des fidèles, c'est eux qui ont construit des écoles, c'est eux qui ont construit des hôpitaux, etc. Que ce soit sous forme de congrégations religieuses ou pas. 400 fondations religieuses en France au 19e. 400. Mais pas uniquement, n'est-ce pas? Il y a aussi des initiatives laïques, sous forme d'associations. Et aujourd'hui, dans le canton de Fribourg, il y a des associations pour aider, par exemple, les mères, en difficulté, soit en danger d'avortement, par leurs difficultés, souvent économiques, soit ayant leurs enfants et ayant des difficultés pour les éduquer et compagnie. Tout ça, c'est des initiatives laïques. Il n'y a pas de délégation à demander. Alors le concours avec la royauté ministérielle, si vous voulez, et la responsabilité propre des ministres, c'est d'insérer ces œuvres qui naissent de l'initiative laïque, de les insérer dans le tissu ecclésial. Et c'est par là, si vous voulez, que l'on distinguera l'humanitaire de l'œuvre ecclésiale. Je n'ai rien contre l'humanitaire, Et heureusement qu'il existe. Mais ce n'est pas nécessaire d'être chrétien pour ça. Le spécifique chrétien, ce sera un humanitaire particulier qui, au nom du Christ et pour l'amour du Christ et pour soigner le Christ lui-même dans les pauvres, voyez les critères du jugement dernier, Matthieu 28, c'est à moi que vous l'avez fait, ça il faut être chrétien. Voyez. Et la responsabilité des ministres, au premier chef l'évêque, qui authentifie une œuvre comme véritablement chrétienne, comme étant une expression authentique de l'amour du Christ pour son peuple et pour toute l'humanité. Ça, c'est la responsabilité ministérielle. Mais pas l'œuvre elle-même, dans son jaillissement, comme dans son fonctionnement. C'est une œuvre baptismale, voyez-vous. Alors, ayant essayé de donner quelques exemples, d'une distinction à la fois réelle, l'un n'est pas l'autre, mais aussi d'une réciprocité réelle l'un l'autre. Voyons, pour terminer rapidement, quelques interrogations à partir de ce schéma que je vous rappelle, unité, diversité, complémentarité, réciprocité. Ce sont quatre, et dans cet ordre, On peut le prendre dans l'ordre descendant, c'est comme ça que Dieu nous le donne. On peut le prendre dans l'ordre ascendant, c'est comme ça qu'on le vit. Le tout, c'est que les quatre soient ensemble et dans une vraie cohérence. Alors, je reprends rapidement les trois grands chapitres, enfin j'applique, je vais donner quelques exemples, à partir des trois grands chapitres document du conseil du synode à Rome, le secrétariat général pour le synode à Rome, qui a présenté la démarche synodale, donc en 2021, dans un document, qui a trois grands chapitres, communion, participation, mission. Voilà où on aboutit quand on a bien en tête le schéma unité, diversité, complémentarité, réciprocité. Bon, pourquoi? Ben pour la communion, pour la participation en vue de la mission. Alors, pour la communion, vivre la communion qu'est l'Église. Ça suppose d'abord que on sache ce que c'est qu'une communion. Alors c'est très simple, rassurez-vous, on ne va pas se fatiguer l'esprit, surtout à cette heure-ci. Une communion, c'est le nom d'une communauté humaine dont l'unité est faite par la charité. Voilà. Donc, un troupeau de vaches, c'est pas une communion de vaches. Les actionnaires du Crédit Suisse, c'est pas une communion d'actionnaires. Pourquoi ? Parce que le principe d'unité de ce groupe qui s'appelle les actionnaires du Crédit Suisse, c'est pas la charité, c'est la recherche du profit. Bien. Donc, vous voyez, alors une famille, c'est une communion. Bien sûr, hein, voilà. Et bien sûr, la paroisse, le diocèse, enfin, l'Église, hein, son unité, il ne faut pas la chercher ailleurs. Hein, c'est la charité. Alors, dans notre situation actuelle, notre communion, c'est-à-dire notre charité, donc notre unité, la vie de notre diversité, etc., me semble parfois fragilisé par le jeu de plusieurs causes. Je vais en nommer, sans la prétention d'être exhaustif, qui peut l'être, je vais en nommer quatre. Mais ça m'intéressera d'avoir des remontées là-dessus. Je ne suis pas le magistère, profitez-en, on peut me critiquer. Bien. Premièrement, la sécularisation des esprits. On se conduit parfois dans l'Église comme dans la société civile. Or, ce ne sont pas des communautés identiques. Et en particulier, on veut parfois transposer dans la communauté Église la démocratie civile. Ici, c'est l'unité qui est en jeu, hein, c'est le premier palier qui tient tout le reste. On a des revendications ou des affirmations. J'ai entendu une fois quelqu'un dire on devrait faire un syndicat pour nous défendre contre nos patrons que sont les évêques. Dans la société civile, moi bon, je suis français, donc la CGT je connais, hein, rassurez-vous. Bon. Dans la société civile, le syndicat, j'ai rien contre. Hein. Dans l'Église, est-ce que c'est pas un copier-coller un peu trop rigide? À mon avis, oui, puisque ce ne sont pas des communautés identiques. Ou des attitudes, on revendique des égalités de droits. Or là où il y a complémentarité, il n'y a pas égalité de droit. Il y a complémentarité des droits. Deuxième cause, la confiance mutuelle. Ici, ce n'est pas l'unité qui est d'emblée en cause, c'est plutôt la diversité qui me semble en cause et fragilisée chez nous. Il faut savoir s'accepter comme différent. Différent de dons, de talents, et donc de responsabilité. Et donc, comme on est différent et qu'on n'a pas tous les mêmes dons et donc tous les mêmes responsabilités, on se fait confiance. Plutôt que de faire à la place de l'autre, ben on lui fait confiance. C'est parfois fragilisé. Vous savez, ce que je vous dis, vous pourriez me dire, la vie paroissiale, c'est pas trop votre truc, hein, c'est vrai. Oui, bien sûr. Moi, je vis en communauté religieuse. Depuis 38 ans, hein, bon. Donc, je suis pas un novice, hein. Et rassurez-vous, c'est les mêmes hommes, hein, qui sont dans les paroisses et dans les communautés religieuses. On n'est pas des anges, hein. Vous voyez, j'ai pas d'ailes, hein. Bon. Oui. Le substrat humain, c'est le même, hein. Et une communauté religieuse, c'est une cellule d'église. Et ce que je dis et que j'essaie d'approprier, par exemple, à une paroisse, je pourrais parfaitement l'approprier à une communauté religieuse. L'unité, la diversité, la complémentarité, la réciprocité, ben c'est le battement de cœur de ma communauté religieuse. On vit 15, hein, nous sommes 15 dans ma communauté. Mais c'est ça qu'on essaie de vivre, bien sûr. Hein. Alors, ici, la confiance mutuelle, elle est absolument nécessaire. Et parfois, elle fait défaut. Elle est nécessaire parce que nous sommes différents, et donc pas interchangeables. Alors, bien sûr, troisième cause, le cléricalisme, bien sûr, des ministres, oui, mais aussi des laïcs. Toute cette structuration autour du pouvoir. Hein. Oui, le mot vient des clercs, hein, ça c'est clair, c'est le cas de le dire. Mais on peut en voir des expressions aussi chez les laïcs. Là, c'est la complémentarité, bien sûr, qui est touchée. Il n'y a pas que le schéma selon lequel l'un commande et les autres obéissent, n'est-ce pas? Hein? L'œuvre à réaliser, faire fructifier en charité la grâce reçue, ça ne peut être qu'une œuvre commune, n'est-ce pas? Chacun y contribuant pour sa part. Et petit dé, je reprends quelques suggestions faites par le pape François. Notre communion peut être fragilisée dans la mesure où elle a de la difficulté à insérer les jeunes. Le pape François nous demande d'y réfléchir. Ainsi que notre communion est fragilisée et appauvrie quand elle n'a pas encore trouvé, peut-être, un juste féminisme. On entend beaucoup de féminisme dans les médias et compagnie. Bon, passons, c'est pas toujours, à mon avis, très bien réglé, mais qu'importe, dans la communauté chrétienne, nous devons un juste féminisme. Il est clair que le statut, le rôle, etc. de la femme doit être à nouveau et surtout étudié dans la communauté chrétienne et qu'il ne faudrait pas être trop en retard de ce point de vue-là. D'autant plus que l'engagement des femmes dans la vie de l'Église est traditionnellement beaucoup plus nombreux que l'engagement des hommes. Le remède à ces questions qui fragilisent notre communion, c'est pas Yaka Faucon. Hein. Sinon, d'ailleurs, vous le sauriez déjà, c'est pas la peine de faire venir quelqu'un pour le dire. Le document préparatoire du synode dit que le remède, c'est l'écoute, le dialogue et à la fin, le discernement. Écoute et donc dialogue, donc écoute réciproque, ça veut dire dialogue. Au profit de quoi? Ben d'un discernement. En ce qui concerne la participation à la vie de l'Église, hein, après communion, il y a participation, c'est-à-dire produire les œuvres de l'authentique charité. Hein. Trois questions qui me semblent intéressantes, même si ce n'est pas le tout. Dans nos contrées occidentales, donc ici, si j'étais en Afrique, je ne parlerais pas exactement pareil, bien sûr, l'Église est envoyée au poste chrétien, comme je disais tout à l'heure. C'est un cas de figure inédit depuis 2000 ans qu'existe l'Église. Donc c'est pas troublant qu'on n'ait pas d'emblée la bonne réponse et le bon réglage. Mais c'est à condition de se mettre en recherche et en marche, synode, aujourd'hui, que peut-être demain, ou dans 10 ans, j'en sais rien, on aura une réponse adéquate. Mais je vous rappelle quand même que la deuxième évangélisation de l'Europe, c'est le pape Jean-Paul II qui l'a lancée en 1995. Et ça patine encore dans la choucroute. Donc on n'a pas encore réussi à avoir des discernements, peut-être par défaut de dialogue, et défaut de dialogue, peut-être par défaut d'écoute mutuelle. Puis nous avons dans nos sociétés occidentales des défis, je dirais, de nature morale considérables. Par exemple, le suicide assisté. C'est fait en Suisse, c'est pas encore fait en France. Mais on sent très bien dans quel sens beaucoup de groupes poussent, n'est-ce pas ? Et ces défis culturels et moraux, hein, c'est lié, demandent des réponses, bien sûr, pas simplement théoriques, pour ça on a les dominicains, mais des réponses en actes, n'est-ce pas ? Fonder, gérer, animer des maisons de soins palliatifs. Tout le monde dit que la question du suicide assisté se pose parce qu'il y a un déficit de soins palliatifs. Que si les mourants, les personnes en fin de vie, pardonnez-moi, c'est comme ça qu'il faut dire maintenant, peuvent penser à un suicide assisté, c'est parce que il y a un défaut d'assistance dans cette période finale de la vie. Et que vous avez un médecin, Marie de Hensel en France, hein, qui a beaucoup écrit là-dessus, et qui dit que 9 fois sur 10, quand à une personne qui a fait une demande de suicide assisté, quand on lui présente un véritable programme de soins palliatifs, elle le préfère. Donc vous voyez, la réponse ici, c'est pas aligner 3 concepts, ça c'est pas trop difficile, hein, c'est de fonder ces œuvres-là. Parce qu'il y a un déficit. Comme au XIXe siècle, on a fondé les écoles et les hôpitaux parce qu'il n'y en avait pas. Eh bien aujourd'hui, il faut fonder des maisons de soins palliatifs parce qu'il n'y en a pas. Et la communauté chrétienne a toujours fait comme ça. Voyez-vous? Et une fois de plus, il faut aller au-delà du simple humanitaire, qui est tout à fait respectable et digne, hein, il faut aller à l'humanitaire chrétien. Hein, c'est à moi que vous l'avez fait, Matthieu 28. Vous avez aussi, dans la participation à la vie de l'Église, vous avez la place de l'évêque. L'évêque, vous savez, c'est la cible bien facile que pour flinguer, il suffit de bien viser, on risque pas de la rater. Hein. Bon. Oui, c'est un peu Saint-Sébastien avec ses flèches, vous savez, c'est maintenant ça, les évêques. Hein. Bon, très bien. Il faut quand même savoir que c'est une institution par le Christ lui-même, hein, ce sont les successeurs des apôtres, c'est le collège des douze qui vient jusqu'à nous, si je puis dire, et la place irremplaçable de l'évêque, c'est d'être garant, hein, c'est le garant de la condition première de la communauté chrétienne, c'est-à-dire de son unité. Et il appose, l'évêque, le sceau de l'Église sur la pastorale et la mission. Il ne fait pas toute la pastorale et la mission, c'est inconcevable. Eh bien, c'est pour le tuer, il n'y a rien de mieux. Bon. Mais il appose son sceau, il garantit l'insertion ecclésiale, l'identité ecclésiale de telle œuvre, de telle activité, de telle mission, etc. C'est son rôle d'authentifier et de garant. À partir de ce qui lui est présenté, en particulier les œuvres de charité. Troisièmement, au plan de la participation à la vie de l'Église, il faut affronter le mystère du mal. Où le mal, vous savez, dans son existence, c'est pas un mystère, il suffit d'ouvrir les yeux. Hein. Bon. Là où il est, le mal, dans son mystère, c'est dans ses causes. Dans ses causes, ça vient d'où, ce mal, en nous et autour de nous. Hein. C'est là qu'est le mystère, c'est dans les causes, c'est pas dans la réalité du mal, hein. Il suffit d'avoir les yeux ouverts. Bon. Et en particulier, qui fait partie du mystère du mal, le mystère du démon, du diable. Autrefois, on en parlait trop, maintenant, on n'en parle pas assez. C'est déséquilibré, si j'ose dire. Oui, je m'excuse, ça existe. Bon. Et il est évident que partout où il y a division, ce qui est le contraire de l'unité, bien sûr, nous avons le mystère du mal avec la complicité qu'il trouve en nous. Ça, c'est le mystère qui est intérieur à nous, et le mystère du mal dans la complicité qui vient chercher en nous, et ça, c'est le mystère du mal extérieur à nous, qui s'appelle le démon. Faut être au clair là-dessus, hein, sans pour autant voir les pieds fourchus derrière chaque porte. Ah, d'accord. Ben, bon. Mais il faut savoir que le mystère du mal, c'est un mystère qui veut diviser les choses, hein, qui s'attaque au point premier, qui supporte tout le reste, qui est l'unité. Le mystère du mal lutte contre la diversité, par exemple, jalousie. Hein? Le mystère du mal voile par conséquent la complémentarité. Je veux être comme le curé. Et non, je suis différent, complémentaire. Et par conséquent, le mystère du mal empêche la réciprocité. Oh, il est malin, hein. Quand il est à l'intérieur de nous, on n'est pas si bête, hein. Et encore plus quand il est extérieur à nous. Le remède. Je reprends ici le document de Romain, hein. Il faut mettre les différents charismes en interaction. Parce qu'ils viennent de l'Esprit Saint. Et ils sont, si vous voulez, comme les pièces d'un ensemble que l'Esprit Saint donne. Eh bien, ça y est, montez le mécano maintenant, assemblez les pièces. Ça ne se fera pas sans nous, ça. Avec cette responsabilité particulière dans ce jeu-là de l'évêque, qui est par un charisme parmi les autres, qui est le premier charisme, qui garantit tous les autres, en leur donnant d'être, pas en les faisant, en leur donnant d'être et d'être unis entre eux. C'est l'image que prennent souvent les pères de l'Église de l'évêque comme chef d'orchestre. Chef d'orchestre, il souffle pas dans la trompette, il n'a pas un violon dans une main, il n'a pas la batterie entre les genoux, hein, bon. Non, il fait jouer les autres. Hein. Enfin, dernier point, j'arrive à la fin, rassurez-vous, les fruits attendus de la démarche synodale. 5, rapidement. Revivifier la vie paroissiale et diocésaine, savoir nommer les échecs et les réussites dans les cas précis. Échec quand les défauts d'unité ou de synergie ont paralysé l'œuvre ecclésiale. Premier point, hein, donc il y a un effort de vérité. C'est pas une vérité qui accuse pour condamner, c'est une vérité qui libère. Deuxièmement, savoir identifier les intuitions qui ont vu le jour, parfois hors du tissu ecclésial, dans le monde associatif, qui répond aux nouvelles pauvretés, par exemple. Et savoir s'en inspirer humblement. Mon couvent soutient financièrement une association qui n'a rien d'ecclésial ou de catholique. C'est une association de gens de bonne volonté, dont tous ne sont pas chrétiens d'ailleurs, à Fribourg, qui s'est aperçue un jour, quelques personnes sont aperçues un jour, que les différentes associations humanitaires, d'églises ou séculières, ne fonctionnaient pas le dimanche. Or, il y a des gens qui ont besoin de manger le dimanche, et qui ne mangeaient pas le dimanche parce que la porte était fermée. Et cette association, eh bien, elle sert des repas uniquement le dimanche. Elle n'est pas chrétienne, elle est née en dehors. Voilà. Savoir aussi s'en inspirer. Troisièmement, savoir identifier découragement et désenchantement. Vous savez, comme professeur, je peux vous dire que découragement et désenchantement. Un de mes confrères, le père Gilles Emery, pour ne pas le citer, disait « Le psaume dit « Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie ». Chez nous, c'est le contraire. On sème dans la joie, c'est-à-dire qu'on enseigne avec plaisir, et puis on récolte à l'examen en pleurant. Quand on voit ce qui a été digéré en face. Pas toujours. On a de très grandes consolations, parfois. Hein. Mais, si vous voulez, découragement et désenchantement sont produits par un certain aspect de notre culture actuelle qui est une culture de la rapidité, pour ne pas dire de l'immédiateté. Je suis un fils de vigneron, hein, je peux vous dire qu'un paysan, quand il sème un champ de blé, il sait qu'il faut 6 mois pour la moisson. Bon. Nous, quand nous faisons quelque chose, nous baptisons quelque chose, on fait une œuvre, on décide quelque chose, on est plus exposé que les agriculteurs ou que nos parents ou grands-parents au désenchantement ou au découragement parce qu'on attend un produit et un fruit immédiat. Or, il faut avoir le temps, le sens du temps moyen et du temps long, parce que les œuvres de la grâce ne se font pas en un jour. Et que le processus qui veut que l'unité est faite de la diversité, complémentarité, réciprocité, c'est plus lourd à mettre en œuvre qu'un seul qui décide pour tout le monde. Ah, ça c'est vrai. Et c'est la tentation de l'efficacité mondaine qui court-circuite tout pour être plus efficace. Mais on s'aperçoit que ces œuvres-là, elles ont une durée de vie plus courte en général que celles qui ont lentement, parfois un peu difficilement, mûri et éclos. Quand on fait l'histoire, par exemple, des petites congrégations religieuses qui sont nées en France au XIXe siècle, 400 quand même, hein, c'est parti d'un village, hein, de 3 ou 4 filles pieuses, etc., qui se sont mises à faire la classe aux enfants du village qui n'avaient personne, etc. Et ça a duré parfois 20 ans comme ça. Alors qu'aujourd'hui, ces mêmes congrégations ont pignon sur rue, ont des immeubles, des lycées, etc. Oui, oui, mais ça, c'est 150 ans plus tard. Voyez-vous. Mère Teresa, elle a commencé comment? Hein? Elle a vu un pauvre mourir dans la rue, elle l'a pris et elle l'a mis dans son lit. Ça a commencé comme ça. Et la Mère Teresa médiatique, c'est 30 ans plus tard. Hein? Donc attention à cette estimation du temps, n'est-ce pas? Quatrième point, je vais finir, rassurez-vous, hein, bon, prendre pour modèle d'unité, de diversité, de complémentarité, de réciprocité, quoi? L'assemblée eucharistique. C'est le modèle indépassable. Vous avez là l'organigramme, si vous voulez, parfait de la communauté chrétienne. où tout le monde est exactement à sa place. Du moins si on respecte le mystère, hein. Passons. Ce que je souhaite quand même. Dernier point. Nous avons parfois tendance à opposer ce qui, que ce soit dans la société civile ou dans la communauté chrétienne, parfois à opposer ce qui est de sa structure fixe, rigide, stable, et sa vie qui est pleine de dynamisme, et de concevoir la structure comme alourdissant, ralentissant le dynamisme, etc. Non, je crois que c'est une fausse opposition. Dans un corps humain, il faut un squelette. C'est pas lui qui vous fera courir, mais qui vous permet de courir quand même. C'est le cœur, c'est les poumons, c'est les muscles qui vous permettent de courir. Mais si vous n'avez pas de squelette, vous n'irez pas loin. N'est-ce pas? Donc il y a cette alliance, de ce qui est de l'ordre de la structure, qui peut donner une impression de fixité ou d'immobilité, et du dynamisme, qu'il ne faut pas séparer, parce que l'un est le garant de l'autre, c'est un autre cas de réciprocité. Plus fondamental encore. Voilà, cette fois-ci je termine, trois lignes. Dernier aspect, c'est la conclusion, rassurez-vous, j'ai parlé principalement, pour ne pas dire exclusivement, de la communauté chrétienne, là où nous la vivons, c'est-à-dire la cellule paroissiale, le service spécialisé, l'aumônerie ou le couvent. Hein, voilà. Oui. La communauté chrétienne a trois paliers, si vous voulez. Le local, le régional, c'est-à-dire l'église en Suisse, par exemple, et l'universel. Et la communication se fait dans les deux sens. Local, régional, universel, ou universel, régional, local. Très bien. Mais nous sommes au plan local. Et le plan local n'a pas vocation à être écrasé par les deux étages supérieurs de l'immeuble, bien sûr. Et le plan local a, comment dirais-je, sa valeur propre et unique, qui est justement le fait que c'est là où est vécue au concret la fécondité de la grâce. C'est là qu'est ou n'est pas la charité. C'est là qu'est ou n'est pas le salut. Par conséquent, nous sommes exactement au lieu où s'accomplit la perfection et la finalité même de la communauté chrétienne. Elle a ses étages supérieurs qui l'aident, mais tout est ordonné ici à l'aspect réel et concret de l'évangile, ici et maintenant, du mystère de la grâce féconde qui s'appelle la charité. C'est ici. C'est pas dans les étages supérieurs qui le permettent, qui l'aident, évidemment. Mais c'est ici que ça se fait ou que ça ne se fait pas. C'est dire que nous sommes ici en première ligne, tout simplement. Et je vous en remercie.